Chapitre 2, lundi 27 avril. J'ai attendu en vain depuis 5 jours des nouvelles de M. Lobépin. J'avoue que je comptais sérieusement sur l'intérêt qu'il avait paru me témoigner. Son expérience, ses connaissances pratiques, ses relations étendues lui donnaient les moyens de m'être utile. J'étais prêt à faire sous sa direction toutes les démarches nécessaires, mais abandonné à moi-même, je ne sais absolument de quel côté tourner mes pas. Je le croyais un de ces hommes qui promettent peu et qui tiennent beaucoup. Je crains de m'être mépris. Ce matin, je m'étais déterminé à me rendre chez lui sous prétexte de lui remettre les pièces qu'il m'avait confiées et dont j'ai pu vérifier la triste exactitude. On m'a dit que le bonhomme était allé goûter les douceurs de la villégiature dans je ne sais quel château au fond de la Bretagne. Il est encore absent pour 2 ou 3 jours. Ceci m'a véritablement consterné. Je n'éprouvais pas seulement le chagrin de rencontrer l'indifférence et l'abandon où j'avais pensé, trouver l'empressement d'une amitié dévouée, mais j'avais de plus l'amertume de m'en retourner comme j'étais venu, avec une bourse vide. Je comptais en effet prier M. Lobépin de m'avancer quelque argent sur les 3 ou 4 000 francs qui doivent nous revenir après le paiement intégral de nos dettes, car j'ai eu beau vivre en anachorète depuis mon arrivée à Paris. La somme insignifiante que j'avais pu réserver pour mon voyage est complètement épuisée, et si complètement qu'après avoir fait ce matin un véritable déjeuner de pasteur, castanea molles et precipia lactis, j'ai dû recourir pour dîner ce soir à une sorte d'escroquerie dont je veux consigner ici le souvenir mélancolique. Moins on a déjeuné, plus on désire dîner. C'est un axiome dont j'ai senti aujourd'hui toute la force bien avant que le soleil eût achevé son cours. Parmi les promeneurs que la douceur du ciel avait attirés cet après-midi aux Tuileries et qui regardaient se jouer les premiers sourires du printemps sur la face de marbre des Sylvains, on remarquait un homme, jeune encore, et d'une tenue irréprochable, qui paraissait étudier avec une sollicitude extraordinaire le réveil de la nature. Non content de dévorer de l'œil la verdure nouvelle, il n'était point rare de voir ce personnage détaché furtivement de leurs tiges de jeunes pousses appétissantes, des feuilles à demi déroulées, et les porter à ses lèvres avec une curiosité de botaniste. J'ai pu m'assurer que cette ressource alimentaire qui m'avait été indiquée par l'histoire des naufrages était d'une valeur fort médiocre. Toutefois, j'ai enrichi mon expérience de quelques notions intéressantes. Ainsi, je sais désormais que le feuillage du marronnier est excessivement amer à la bouche comme au cœur. Le rosier n'est pas mauvais. Le tilleul est onctueux et assez agréable. Le lilas poivré et malsain, je crois. Tout en méditant sur ces découvertes, je me suis dirigé vers le couvent d'Hélène. En mettant le pied dans le parloir, que je trouvais plein comme une ruche, je me suis senti plus assourdi qu'à l'ordinaire par les confidences tumultueuses des jeunes abeilles. Hélène est arrivée, les cheveux en désordre, les joues enflammées, les yeux rouges et étincelants. Elle tenait à la main un morceau de pain de la longueur de son bras. Comme elle m'embrassait d'un air préoccupé, « Eh bien, fillette, qu'est-ce qu'il y a donc? Tu as pleuré? »« Non, 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 mon Maxime, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. » Elle a baissé la voix. « Oh, je suis bien malheureuse, va, mon pauvre Maxime. » « Vraiment, mais conte-moi donc cela en détail, en mangeant ton pain. »« Oh, je vais certainement pas manger mon pain. Je suis bien trop malheureuse pour manger. Tu sais bien, Lucie Campbell, ma meilleure amie. Eh bien, nous sommes brouillés mortellement. Oh mon Dieu! Mais sois tranquille, ma mignonne, vous vous raccommoderez, va. Oh, Maxime, c'est impossible, vois-tu. Il y a eu des choses trop graves. C'était rien d'abord, mais on s'échauffe et on perd la tête, tu sais. Figure-toi que nous jouions au volant, et Lucie s'est trompée en comptant les points. J'en avais 680 et elle 615 seulement. Et elle a prétendu en avoir 675. C'était un peu trop fort, tu m'avoueras. J'ai soutenu mon chiffre, bien entendu, elle le sien. Eh bien, mademoiselle, lui ai-je dit, consultant ces demoiselles, je m'en rapporte à elle. Non, mademoiselle, m'a-t-elle répondu, je suis sûre de mon chiffre et vous êtes une mauvaise joueuse. Eh bien, vous, mademoiselle, lui ai-je dit, vous êtes une menteuse. C'est bien, mademoiselle, a-t-elle dit alors, moi je vous méprise trop pour vous répondre. Ma sœur Sainte-Félix est arrivée à ce moment-là, heureusement, car je crois que j'allais la battre. Ainsi voilà ce qui s'est passé. Tu vois, s'il est possible de nous raccommoder après cela, c'est impossible, ce serait une lâcheté. En attendant, je ne peux pas te dire ce que je souffre. Je crois qu'il n'y a pas une personne sur la terre qui soit aussi malheureuse que moi. Certainement, mon enfant, il est difficile d'imaginer un malheur plus accablant que le tien. Mais, pour te dire ma façon de penser, tu te l'es un peu attiré, car dans cette querelle, c'est de ta bouche qu'est sortie la parole la plus blessante. Mais est-elle dans le parloir, ta Lucie? Oui, là, voilà, là-bas, dans le coin. Et elle m'a montré d'un signe de tête digne et discret, une petite fille très blonde, qui avait certainement les joues enflammées et les yeux rouges, et qui paraissait en train de faire à une vieille dame très attentive le récit du drame que la sœur Sainte-Félix avait si heureusement interrompu. Tout en parlant avec un feu digne du sujet, mademoiselle Lucie lançait de temps à autre un regard furtif sur Hélène et sur moi. « Eh bien, ma chère enfant, et je dis, as-tu confiance en moi ?»« Oh oui, j'ai beaucoup de confiance en toi, Maxime. »« En ce cas, voici ce que tu vas faire. Tu vas t'en aller doucement, te placer derrière la chaise de mademoiselle Lucie. »« Tu vas lui prendre la tête comme ça, en traître. »« Tu vas l'embrasser sur les deux joues comme cela de force, et puis tu vas voir ce qu'elle va faire à son tour. » Hélène a paru hésiter quelques secondes, puis elle est partie à grands pas, est tombée comme la foudre sur mademoiselle Campbell et lui a causé néanmoins la plus douce surprise. Les deux jeunes infortunés, réunis enfin pour jamais, ont confondu leurs larmes dans un groupe attendrissant, pendant que la vieille et respectable madame Campbell se mouchait avec un bruit de cornemuse. Hélène est revenue me trouver toute radieuse. « Eh bien, ma chérie, lui ai-je dit, j'espère que maintenant tu vas manger ton pain. »« Oh, vraiment non, Maxime, j'ai été trop émue, vois-tu. Et puis il faut te dire qu'il est arrivé aujourd'hui une élève, une nouvelle, qui nous a donné un régal de meringue, d'éclairs et de chocolat à la crème, de sorte que je n'ai pas faim du tout. » Je suis même très embarrassé parce que dans mon trouble, j'oubliais tout à l'heure de remettre mon pain au panier, comme on doit le faire quand on n'a pas faim au goûter. J'ai peur d'être puni. Mais en passant dans la cour, je vais tâcher de jeter mon pain dans le soupirail de la cave, sans qu'on s'en aperçoive. Comment, petite sœur, ai-je repris en rougissant légèrement, tu vas perdre ce gros morceau de pain-là? Bon, je sais que c'est pas bien, car il y a peut-être des pauvres qui seraient bien heureux de l'avoir, n'est-ce pas, Maxime? Il y en a certainement, ma chère enfant. Mais comment veux-tu que je fasse? Les pauvres n'entrent pas ici. Voyons, Hélène, confie-moi ce pain et je le donnerai en ton nom au premier pauvre que je rencontrerai, veux-tu? Je le crois bien. L'heure de la retraite a sonné. J'ai rompu le pain en deux morceaux que j'ai fait disparaître honteusement dans les poches de mon paletot. « Cher Maxime, a repris l'enfant, à bientôt, n'est-ce pas? Tu me diras si tu as rencontré un pauvre, si tu lui as donné mon pain et s'il l'a trouvé bon. » « Oui, Hélène, j'ai rencontré un pauvre. Je lui ai donné ton pain qu'il a emporté comme une proie dans sa mansarde solitaire. Et il l'a trouvé bon. Mais c'était un pauvre sans courage, car il a pleuré en dévorant l'aumône de tes petites mains bien-aimées. Je te dirai tout cela, Hélène, car il est bon que tu saches qu'il y a sur la terre des souffrances plus sérieuses que tes souffrances d'enfant. Je te dirai tout, excepté le nom du pauvre. Mardi 28 avril. Ce matin, à 9 h, je sonnais à la porte de M. Loubépin, espérant vaguement que quelque hasard aurait hâté son retour. Mais on ne l'attend que demain. La pensée m'est venue aussitôt de m'adresser à Mme Loubépin et de lui faire part de la gêne excessive où me réduit l'absence de son mari. Pendant que j'hésitais entre la pudeur et le besoin, la vieille domestique, effrayée apparemment du regard affamé que je fixais sur elle, a tranché la question en refermant brusquement la porte. J'ai pris alors mon parti et j'ai résolu de jeûner jusqu'à demain. Je me suis dit qu'après tout, on ne meurt pas pour un jour d'abstinence. Si j'étais coupable en cette circonstance d'un excès de fierté, j'en devais souffrir seul et par conséquent, cela ne regardait que moi. Là-dessus, je me suis dirigé vers la Sorbonne, où j'ai assisté successivement à plusieurs cours, en essayant de combler, à force de jouissance spirituelle, le vide qui se faisait sentir dans mon temporel. Mais l'heure est venue où cette ressource m'a manqué, et aussi bien je commençais à la trouver insuffisante. J'éprouvais surtout une forte irritation nerveuse que j'espérais calmer en marchant. La journée était froide et brumeuse. Comme je passais sur le pont des Saints-Pères, je me suis arrêté un instant, presque malgré moi. Je me suis accoudé sur le parapet et j'ai regardé les eaux troubles du fleuve se précipiter sous les arches. Je ne sais quelles pensées maudites ont traversé en ce moment mon esprit fatigué et affaibli. Je me suis représenté soudain, sous les plus insupportables couleurs, l'avenir de lutte continuelle, de dépendance et d'humiliation dans lequel j'entrais lugubrement par la porte de la faim. J'ai senti un dégoût profond, absolu, et comme une impossibilité de vivre. En même temps, un flot de colère sauvage et brutale me montait au cerveau. J'ai eu comme un éblouissement, et me penchant dans le vide, j'ai vu toute la surface du fleuve se pailleter d'étincelles. Je ne dirai pas, suivant l'usage, « Dieu ne l'a pas voulu ». Je n'aime pas ces formules banales. J'ose dire « Je ne l'ai pas voulu ». Dieu nous a fait libres, et si j'en avais pu douter auparavant, cette minute suprême où l'âme et le corps, le courage et la lâcheté, le bien et le mal se livraient en moi, si clairement un mortel combat, cette minute eût emporté mes doutes à jamais. Redevenu maître de moi, je n'ai plus éprouvé vis-à-vis de ces ondes redoutables que la tentation fort innocente et assez niaise d'y étancher la soif qui me dévorait. J'ai réfléchi au surplus que je trouverais dans ma chambre une eau beaucoup plus limpide, et j'ai pris rapidement le chemin de l'hôtel, en me faisant une image délicieuse des plaisirs qui m'y attendaient. Dans mon triste enfantillage, je m'étonnais, je ne revenais pas de n'avoir point songé plus tôt à cet expédient vainqueur. Sur le boulevard, je me suis croisé tout à coup avec Gaston Devaux, que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Il s'est arrêté après un mouvement d'hésitation, m'a serré cordialement la main, m'a dit 2 mots de mes voyages et m'a quitté à la hâte. Puis, revenant sur ses pas, « Ah, mon ami, m'a-t-il dit, il faut que tu me permettes de t'associer à une bonne fortune qui m'est arrivée ces jours-ci. J'ai mis la main sur un trésor. J'ai reçu une cargaison de cigares qui me coûte 2 francs chacun, mais qui sont sans prix. Oh, voici, tu m'en diras des nouvelles. Allez, au revoir, mon bon. » J'ai monté péniblement mes 6 étages et j'ai saisi, en tremblant d'émotion, ma bienheureuse carafe dont j'ai épuisé le contenu à petites gorgées. Après quoi, j'ai allumé le cigare de mon ami en m'adressant dans ma glace à un sourire d'encouragement. Je suis ressorti aussitôt, convaincu que le mouvement physique et les distractions de la rue m'étaient salutaires. En ouvrant la porte, j'ai été surpris et mécontent d'apercevoir dans l'étroit corridor la femme du concierge de l'hôtel qui apparut décontenancée de ma brusque apparition. Cette femme a été autrefois au service de ma mère, qui l'avait prise en affection et qui lui donna, en la mariant, la place lucrative qu'elle occupe encore aujourd'hui. J'avais cru remarquer depuis quelques jours qu'elle m'épiait, et la surprenant cette fois presque en flagrant délit, « Qu'est-ce que vous voulez ?» lui ai-je dit violemment. « Oh, rien, monsieur Maxime, rien, » a-t-elle répondu, fort troublée. « J'apprêtais le gaz. » J'ai levé les épaules et je suis parti. Le jour tombait. J'ai pu me promener dans les lieux les plus fréquentés sans craindre de fâcheuses reconnaissances. J'ai été forcé de jeter mon cigare qui me faisait mal. Ma promenade a duré 2 ou 3 heures, des heures cruelles. Il y a quelque chose de particulièrement poignant à se sentir attaqué au milieu de tout l'éclat et de toute l'abondance de la vie civilisée par le fléau de la vie sauvage, la faim. Cela tient de la folie. C'est un tigre qui vous saute à la gorge en plein boulevard. Je faisais des réflexions nouvelles. Ce n'est donc pas un vain mot, la faim. Il y a donc vraiment une maladie de ce nom-là. Il y a vraiment des créatures humaines qui souffrent à l'ordinaire et presque chaque jour, ce que je souffre moi par hasard une fois en ma vie. Et pour combien d'entre elles cette souffrance ne se complique-t-elle pas encore de raffinements qui me sont épargnés? Le seul être qui m'intéresse au monde, je le sais du moins à l'abri des maux que je subis, je vois son cher visage heureux, rose et souriant. Mais ceux qui ne souffrent pas seuls, ceux qui entendent le cri déchirant de leurs entrailles répété par des lèvres aimées et suppliantes, ceux qu'attendent dans leur froid logis les femmes aux joues pâles et les petits enfants sans sourire, pauvres gens, ô sainte charité! Ces pensées m'ôtaient le courage de me plaindre. Elles m'ont donné celui de soutenir l'épreuve jusqu'au bout. Je pouvais en effet l'abréger. Il y a ici 2 ou 3 restaurants où je suis connu, et il m'est arrivé souvent, quand j'étais riche, d'y entrer sans scrupule, quoique j'eusse oublié ma bourse. Je pouvais user de ce procédé. Il ne m'eût pas été plus difficile de trouver à emprunter 100 sous dans Paris, mais ces expédients, qui sentaient la misère et la tricherie, m'ont décidément répugné. Pour les pauvres, cette pensée est glissante. Je n'y veux même pas poser le pied. J'aimerais autant, je crois, perdre la probité même que de perdre la délicatesse, qui est la distinction que cette vertu vulgaire. Or, j'ai trop souvent remarqué avec quelle facilité terrible ce sentiment exquis de l'honnêteté se déflore et se dégrade dans les âmes les mieux douées, non seulement au souffle de la misère, mais au simple contact de la gêne, pour ne pas veiller sur moi avec sévérité, pour ne pas rejeter désormais comme suspecte les capitulations de conscience qui semblent les plus innocentes. Il ne faut donc pas, quand les temps mauvais viennent habituer son âme à la souplesse, elle n'a que trop de penchants à plier. La fatigue et le froid m'ont fait rentrer vers 9 heures. La porte de l'hôtel s'est trouvée ouverte. Je gagnais l'escalier d'un pas de fantôme quand j'ai entendu dans la loge du concierge le bruit d'une conversation animée dont je paraissais faire les frais, car à ce moment même le tyran du lieu prononçait mon nom avec l'accent du mépris. « Fais-moi le plaisir, disait Madame Beauberger, de me laisser tranquille avec ton Maxime. Est-ce moi qui l'ai ruiné, ton Maxime? Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je chante alors? S'il se tue, on l'enterrera, quoi. Mais je te dis, Beauberger, a repris la femme, que ça t'aurait fendu le cœur si tu l'avais vu avaler sa carafe. Et si je croyais, vois-tu, que tu penses ce que tu dis, quand tu dis nonchalamment comme un acteur, s'il se tue, on l'enterrera. Mais je ne crois pas, parce qu'au fond, tu es un brave homme, quoique tu n'aimes pas être dérangé de tes habitudes. Songe donc, vos bergers, manquer de feu et de pain. Un garçon qui a été nourri toute sa vie, avec du blanc mangé et élevé dans les fourrures, comme un pauvre chat chéri. C'est pas une honte et une indignité, ça. Et c'est pas un drôle de gouvernement que ton gouvernement qui permet des choses pareilles. Mais ça te regarde pas du tout, le gouvernement, a répondu avec assez de raison M. Beauberger. Et puis tu tombes, je te dis. Il en est pas là. Il manque pas de pain. C'est impossible. Eh bien, Beauberger, je vais te dire tout. Je l'ai suivi, je l'ai espionné là, et je l'ai fait espionner par Édouard. Eh bien, je suis sûr qu'il n'a pas dîné hier, qu'il n'a pas déjeuné ce matin. Et comme j'ai fouillé dans toutes ses poches et dans tous ses tiroirs, et qu'il ne reste pas un rouge liard, bien certainement il n'aura pas dîné aujourd'hui, car il est trop fier pour aller mendier un dîner. Eh bien, tant pis pour lui, quand on est pauvre, il ne faut pas être fier, a dit l'honorable concierge, qui m'a paru en cette circonstance exprimer les sentiments d'un portier. J'avais assez de ce dialogue. J'y ai mis fin brusquement en ouvrant la porte de la loge et en demandant une lumière à M. Beauberger, qui n'aurait pas été plus consterné, je crois, si je lui avais demandé sa tête. Malgré tout le désir que j'avais de faire bonne contenance devant ces gens, il m'a été impossible de ne pas trébucher une ou deux fois dans l'escalier. La tête me tournait. En entrant dans ma chambre, ordinairement glaciale, j'ai eu la surprise d'y trouver une température tiède, doucement entretenue par un feu clair et joyeux. Je n'ai pas eu le rigorisme de l'éteindre. J'ai béni les braves cœurs qu'il y a dans le monde. Je me suis étendu dans un vieux fauteuil en velours d'Utrecht que des revers de fortune ont fait passer, comme moi-même, du rez-de-chaussée à la mansarde, et j'ai essayé de sommeiller. J'étais depuis une demi-heure environ plongé dans une sorte de torpeur dont la rêverie uniforme me présentait le mirage de somptueux festins et de grasses kermesses, quand le bruit de la porte qui s'ouvrait m'a réveillé en sursaut. j'ai cru rêver encore en voyant entrer Madame Beauberger, ornée d'un vaste plateau sur lequel fumaient deux ou trois plats de riz ferrant. Elle avait déjà posé son plateau sur le parquet et commencé à étendre une nappe sur la table avant que j'eusse pu secouer entièrement ma léthargie. Enfin, je me suis levé brusquement. « Mais qu'est-ce que c'est ?» je dis. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Madame Beauberger a feint une vive surprise. « Est-ce que monsieur l'a pas demandé à dîner ?»« Non, pas du tout. » « Oh ben, Édouard m'a dit que monsieur... »« Oh non, Édouard s'est trompé. C'est quelques locataires à côté, voyez. »« Mais il n'y a pas de locataire sur le palier de monsieur. Je comprends pas. »« Enfin, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que cela veut donc dire ? Oh, vous me fatiguez, emportez cela. » La pauvre femme s'est mise alors à replier tristement sa nappe en me jetant les regards éplorés d'un chien qu'on a battu. « Monsieur a probablement dîné, » a-t-elle repris d'une voix timide. « Oui, probablement. »« C'est dommage, car le dîner était tout prêt. Il va être perdu et le petit va être grondé par son père. » Si monsieur n'avait pas eu dîner par hasard, monsieur m'aurait bien obligé. J'ai frappé du pied avec violence. Allez-vous-en, me dis-je. Puis, comme elle sortait, je me suis approché d'elle. Ma bonne Louison, je vous comprends. Je vous remercie. Mais je suis un peu souffrant ce soir. Je n'ai pas faim. « Oh, monsieur Maxime » s'est-elle écriée en pleurant. « Oh, si vous saviez comme vous me mortifiez !»« Eh bien, vous me paierez mon dîner, là, si vous voulez. Vous me mettrez de l'argent dans la main quand il vous en reviendra. Mais vous pouvez être bien sûr que quand vous me donneriez 100 000 francs, ça ne me ferait pas autant de plaisir que de vous voir manger mon pauvre dîner. » C'est une fière aumône que vous me feriez aller. Vous qui avez de l'esprit, monsieur Maxime, vous devez bien comprendre ça pourtant. Eh bien, ma chère Louison, que voulez-vous? Je ne peux pas vous donner 100 000 francs, mais je m'en vais manger votre dîner. Vous me laisserez seul, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah, merci, monsieur. « Je vous remercie bien, monsieur. Vous avez bon cœur. »« Et bon appétit aussi, Louison. Donnez-moi votre main. »« Oh, ce n'est pas pour y mettre de l'argent. Soyez tranquille, là. »« Au revoir, Louison. » Et l'excellente femme est sortie en sanglotant. J'achevais d'écrire ces lignes après avoir fait honneur au dîner de Louison, quand j'ai entendu dans l'escalier le bruit d'un pas lourd et grave. En même temps, j'ai cru distinguer la voix de mon humble providence s'exprimant sur le ton d'une confidence hâtive et agitée. Peu d'instants après, on a frappé, et pendant que Louison s'effaçait dans l'ombre, j'ai vu paraître dans le cadre de la porte la silhouette solennelle du vieux notaire. Monsieur Lobépin a jeté un regard rapide sur le plateau où j'avais réuni les deux grilles de mon repas. Puis, s'avançant vers moi et ouvrant les bras en signe de confusion et de reproche à la fois, « Oh, monsieur le marquis » a-t-il dit, « au nom du ciel, comment ne m'avez-vous pas ?» Il s'est interrompu, s'est promené à grands pas à travers la chambre et s'arrêtant tout à coup, « Jeune homme, » a-t-il repris, « ce n'est pas bien. Vous avez blessé un ami. Vous avez fait rougir un vieillard. » Il était fort ému. Je le regardais un peu ému moi-même, et ne sachant trop que répondre, quand il m'a brusquement attiré sur sa poitrine et me serrant à m'étouffer, Il a murmuré à mon oreille, « Mon pauvre enfant !» Il y a eu ensuite un moment de silence entre nous. Nous nous sommes assis. « Maxime, a repris alors M. Lobépin, êtes-vous toujours dans les dispositions que je vous ai laissées? Aurez-vous le courage d'accepter le travail le plus humble, l'emploi le plus modeste, pourvu seulement qu'il soit honorable et qu'en assurant votre existence personnelle, il éloigne de votre sœur, dans le présent et dans l'avenir, les douleurs et les dangers de la pauvreté? Très certainement, monsieur, c'est mon devoir, je suis prêt à le faire. En ce cas, mon ami, écoutez-moi, j'arrive de Bretagne. Il existe dans cette ancienne province une opulente famille du nom de Laroque, laquelle m'honore depuis de longues années de son entière confiance. Cette famille est représentée aujourd'hui par un vieillard et par deux femmes, que leur âge ou leur caractère rend tout également inhabiles aux affaires. Les Laroque possèdent une fortune territoriale considérable, dont la gestion était confiée dans ces derniers temps à un intendant que je prenais la liberté de regarder comme un fripon. J'ai reçu le lendemain de notre entrevue, Maxime, la nouvelle de la mort de cet individu. Je me suis mis en route immédiatement pour le château de Laroque et j'ai demandé pour vous l'emploi vacant. J'ai fait valoir votre titre d'avocat et plus particulièrement vos qualités morales. Pour le conformer à votre désir, je n'ai point parlé de votre naissance. Vous n'êtes et ne serez connu dans la maison que sous le nom de Maxime Odiot. Vous habiterez un pavillon séparé où l'on vous servira vos repas lorsqu'il ne vous sera pas agréable de figurer à la table de famille. Vos honoraires sont fixés à 6 000 francs par an. Cela vous convient-il? Cela me convient à merveille, et toutes les précautions, toutes les délicatesses de votre amitié me touchent vivement. Mais pour vous dire la vérité, je crains d'être un homme d'affaires un peu étrange, un peu neuf. Oh, sur ce point, mon ami, rassurez-vous. Mes scrupules ont devancé les vôtres et je n'ai rien caché aux intéressés. Madame, ai-je dit à mon excellente amie, Madame Laroque, vous avez besoin d'un intendant, d'un gérant pour votre fortune. Je vous en offre un. Oh, il est loin d'avoir l'habileté de son prédécesseur. Il n'est nullement versé dans les mystères des baux et fermages. Il ne sait pas le premier mot des affaires que vous daignerez lui confier. Il n'a point de pratique, point d'expérience, rien de ce qui s'apprend. Mais il a quelque chose qui manquait à son prédécesseur, que 60 ans de pratique n'avaient pu lui donner, et que 10 000 ans n'auraient pu lui donner davantage. Il a, madame, la probité. Je l'ai vu au feu et j'en réponds. Prenez-le. Vous serez mon obligé et la sienne. Madame Laroque, je l'homme, a beaucoup ri de ma manière de recommander les gens, mais finalement, il paraît que c'était une bonne manière, puisqu'elle a réussi. Le digne vieillard s'est offert alors à me donner quelques notions élémentaires et générales sur l'espèce d'administration dont je vais être chargé. Il y ajouta, au sujet des intérêts de la famille Laroque, des renseignements qu'il a pris la peine de recueillir et de rédiger pour moi. « Et quand devrais-je partir, mon cher monsieur ?»« Ben, à vrai dire, mon garçon, il n'était plus question de monsieur le marquis. Le plus tôt sera le mieux, car ces gens-là-bas ne sont pas capables à eux tous de faire une quittance. Mon excellente amie, madame Laroque, en particulier, femme d'ailleurs recommandable à divers titres, est en affaire d'une incurie, d'une inaptitude, d'une enfance qui dépasse l'imagination. C'est une créole. Ah, C'est une créole, ai-je répété avec je ne sais quelle vivacité. Oui, jeune homme, une vieille créole, a repris sèchement M. Lobépin. Son mari était breton. Mais ces détails viendront en leur temps. À demain, Maxime, bon courage. Ah, j'oubliais. Jeudi matin, avant mon départ, j'ai fait une chose qui ne vous sera pas désagréable. Vous aviez parmi vos créanciers quelques fripons dont les relations avec votre père avaient été visiblement entachées d'usure. Armé des foudres légales, j'ai réduit leur créance de moitié et j'ai obtenu quittance du tout. Il vous reste en définitive un capital d'une vingtaine de mille francs. En joignant à cette réserve les économies que vous pourrez faire chaque année sur vos honoraires, nous aurons dans 10 ans une jolie date pour Hélène. Ah, ça, allez, venez demain déjeuner avec Maître Lobépin et nous achèverons de régler cela. Bonsoir, Maxime. Bonne nuit, mon cher enfant. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Château de la Roque d'Ars, 1er mai. J'ai quitté Paris hier. Ma dernière entrevue avec M. Lobépin a été pénible. J'ai voué à ce vieillard les sentiments d'un fils. Il a fallu ensuite dire adieu à Hélène, pour lui faire comprendre la nécessité où je me trouve d'accepter un emploi. Il était indispensable de lui laisser entrevoir une partie de la vérité. J'ai parlé de quelques embarras de fortune passagers. La pauvre enfant en a compris, je crois, plus que je n'en disais. Ses grands yeux étonnés se sont remplis de larmes et elle m'a sauté au cou. Enfin, je suis parti. Le chemin de fer m'a mené à Rennes, où j'ai passé la nuit. Ce matin, je suis monté dans une diligence qui devait me déposer 5 ou 6 heures plus tard dans une petite ville du Morbihan, située à peu de distance du château de la Roque. J'ai fait une dizaine de lieues au-delà de Rennes, sans parvenir à me rendre compte de la réputation pittoresque dont jouit dans le monde la vieille armorique. Un pays plat, vert et monotone, d'éternels pommiers dans d'éternelles prairies, des fossés et des talus boisés bordant la vue des deux côtés de la route, tout au plus quelques petits coins d'une grâce champêtre, des blouses et des chapeaux cirés pour animer ces tableaux vulgaires. Tout cela me donnait fortement à penser depuis la veille que la poétique Bretagne n'était qu'une sœur prétentieuse et même un peu maigre de la basse Normandie. Fatigué de déception et de pommiers, j'avais cessé depuis 1 heure d'accorder la moindre attention au paysage et je sommeillais tristement quand il m'a semblé tout à coup m'apercevoir que notre lourde voiture penchait en avant plus que de raison. En même temps, l'allure des chevaux se ralentissait sensiblement et un bruit de ferraille accompagné d'un frottement particulier m'annonçait que le dernier des conducteurs venait d'appliquer le dernier des sabots à la roue de la dernière diligence. Une vieille dame qui était assise près de moi m'a saisi le bras avec cette vive sympathie que fait naître la communauté du danger. J'ai mis la tête à la portière. Nous descendions entre 2 talus élevés et une côte extrêmement raide, conception d'un ingénieur véritablement trop ami de la ligne droite. Moitié glissant, moitié roulant, nous n'avons pas tardé à nous trouver dans un étroit vallon d'un aspect sinistre, au fond duquel un chétif ruisseau coulait péniblement et sans bruit entre d'épais roseaux. Sur ses rives écroulées se tordaient quelques vieux troncs couverts de mousse. La route traversait ce ruisseau sur un pont d'une seule arche, puis elle remontait la pente opposée en traçant un sillon blanc à travers une lande immense, aride et absolument nue, dont le sommet coupait le ciel vigoureusement en face de nous. Près du pont et au bord du chemin s'élevait une masure solitaire dont l'air de profond abandon serrait le cœur. Un homme, jeune et robuste, était occupé à fendre du bois devant la porte. Un cordon noir retenait par derrière ses longs cheveux d'un blond pâle. Il a levé la tête et j'ai été surpris du caractère étranger de ses traits, du regard calme de ses yeux bleus. Il m'a salué dans une langue inconnue, d'un accent bref, doux et sauvage. À la fenêtre de la chaumière se tenait une femme qui filait. Sa coiffure et la coupe de ses vêtements reproduisaient avec une exactitude théâtrale l'image de ces grêles châtelaines de pierre qu'on voit couchées sur les tombeaux. Ces gens n'avaient point la mine de paysans. Ils avaient au plus haut degré cette apparence aisée, gracieuse et grave qu'on nomme l'air distingué. Leur physionomie portait cette expression triste et rêveuse que j'ai souvent remarquée avec émotion chez les peuples dont la nationalité est perdue. J'avais mis pied à terre pour monter la côte. La lande, que rien ne séparait de la route, s'étendait tout autour de moi à perte de vue. Partout de maigres ajoncs rampant sur une terre noire, ça et là des ravines, des crevasses, des carrières, abandonnées, quelques rochers affleurant le sol, pas un arbre. Seulement, quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai vu à ma droite la ligne sombre de la lande découper dans l'extrême lointain une bande d'horizon plus lointaine encore, légèrement dentelée, bleue comme la mer, inondée de soleil, et qui semblait ouvrir au milieu de ce site désolé la soudaine perspective de quelques régions radieuses et féeriques. C'était enfin la Bretagne. J'ai dû fréter un voiturin dans la petite ville de 3 étoiles pour faire les 2 lieues qui me séparaient encore du terme de mon voyage. Pendant le trajet, qui n'a pas été des plus rapides, je me souviens confusément d'avoir vu passer sous mes yeux des bois, des clairières, des lacs, des oasis de fraîche verdure cachés dans les vallons. Mais en approchant du château de la Roque, je me sentais assailli par 1000 pensées pénibles qui laissaient peu de place aux préoccupations du touriste. Encore quelques instants, et j'allais entrer dans une famille inconnue, sur le pied d'une sorte de domesticité déguisée, avec un titre qui m'assurait à peine les égards et le respect des valets de la maison. Ceci était nouveau pour moi. Au moment même où M. Laubépin m'avait proposé cet emploi d'intendant, tous mes instincts, toutes mes habitudes s'étaient insurgés violemment contre le caractère de dépendance particulière attaché à de telles fonctions. J'avais cru néanmoins qu'il m'était impossible de les refuser, sans paraître infligé aux démarches empressées de mon vieil ami en ma faveur une sorte de blâme décourageant. De plus, je ne pouvais espérer d'obtenir avant plusieurs années, dans des fonctions plus indépendantes, les avantages qui m'étaient faits ici dès le début et qui allaient me permettre de travailler sans retard à l'avenir de ma sœur. J'avais donc vaincu mes répugnances, mais elles avaient été bien vives, et elles se réveillaient avec plus de force, en face de l'imminente réalité. J'ai eu besoin de relire dans le code que tout homme porte en soi les chapitres du devoir et du sacrifice. En même temps, je me répétais qu'il n'est pas de situation si humble où la dignité personnelle ne se puisse soutenir et qu'elle ne puisse relever. Puis je me traçais un plan de conduite vis-à-vis des membres de la famille. me promettant de témoigner pour leurs intérêts un zèle consciencieux, pour leur personne une juste déférence, également éloignée de la servilité et de la raideur. Mais je ne pouvais me dissimuler que cette dernière partie de ma tâche, la plus délicate sans contredit, devait être simplifiée ou compliquée singulièrement par la nature spéciale des caractères et des esprits avec lesquels j'allais me trouver en contact. Oh, monsieur Laubépin, tout en reconnaissant ce que ma sollicitude sur l'article personnel avait de légitime, s'était montré obstinément avare de renseignements et de détails à ce sujet. Toutefois, à l'heure du départ, il m'avait remis une note confidentielle en me recommandant de la jeter au feu dès que j'en aurais fait mon profit. J'ai tiré cette note de mon portefeuille et je me suis mis à en étudier les termes sibyllins que je reproduis ici exactement. Château de la Roque d'Ars. État des personnes qui habitent le dit château. Premièrement, Monsieur Laroque, Louis-Auguste, octogénaire, chef actuel de la famille, source principale de la fortune. Ancien marin, célèbre sous le Premier Empire en qualité de corsaire autorisé. Paraît s'être enrichi sur mer par des entreprises légales de diverses natures. A longtemps habité les colonies. Originaire de Bretagne, il est revenu s'y fixer il y a une trentaine d'années en compagnie de feu Pierre-Antoine Laroque, son fils unique, époux de, deuxièmement, Madame Laroque, Joséphine Clara, belle-fille du susnommé, créole d'origine, âgée de 40 ans. Caractère indolent, esprit romanesque, quelques manies, belle âme. Troisièmement, Mademoiselle Laroque, Marguerite Louise, petite fille, fille et présomptive héritière des précédents, âgée de 20 ans, créole et bretonne, quelques chimères, belle âme. Quatrièmement, Madame Aubry, veuve du sieur Aubry, agent de change décédé en Belgique. Cousine au deuxième degré, recueillie dans la maison, esprit aigri. Cinquièmement, Mademoiselle Éloin, Caroline Gabrielle, 26 ans, ci-devant institutrice, aujourd'hui demoiselle de compagnie. Esprit cultivé, caractère douteux, brûlé. Ce document, malgré la réserve qui le caractérisait, ne m'a pas été inutile. J'ai senti se dissiper avec l'horreur de l'inconnu une partie de mes appréhensions. D'ailleurs, s'il y avait, comme le prétendait M. Laubépin, deux belles âmes dans le château de la Roque, c'était assurément plus qu'on en avait droit d'espérer sur une proportion de 5 habitants. Après 2 heures de marche, le voiturier s'est arrêté devant une grille flanquée de deux pavillons qui servent de logement à un concierge. J'ai laissé là mon gros bagage et je me suis acheminé vers le château, tenant d'une main mon sac de nuit, et décapitant de l'autre à coups de canne les marguerites qui berçaient le gazon. Après avoir fait quelques centaines de pas entre deux rangs d'énormes châtaigniers, je me suis trouvé dans un vaste jardin de disposition circulaire qui paraît se transformer en parc un peu plus loin. J'apercevais à droite et à gauche de profondes perspectives ouvertes entre d'épais massifs déjà verdoyants, des pièces d'eau fuyant sous les arbres et des barques blanches remisées sous des toits rustiques. En face de moi s'élevait le château, construction considérable dans le goût élégant et à demi italien des premières années de Louis XIII. Il est précédé d'une terrasse qui forme au pied d'un double perron et sous les hautes fenêtres de la façade une sorte de jardin particulier auquel on accède par plusieurs escaliers larges et bas. L'aspect riant et fastueux de cette demeure m'a causé un véritable désappointement qui n'a pas diminué lorsqu'en approchant de la terrasse, j'ai entendu un bruit de voix jeunes et joyeuses qui se détachait sur le bourdonnement plus lointain d'un piano. J'entrais décidément dans un lieu de plaisance bien différent du vieux et sévère donjon que j'avais aimé à me figurer. Toutefois, ce n'était plus l'heure des réflexions. J'ai gravi lestement les degrés et je me suis trouvé tout à coup en face d'une scène qu'en toute autre circonstance, j'aurais jugée assez gracieuse. Sur une des pelouses du parterre, une demi-douzaine de jeunes filles, enlacées deux à deux et se riant au nez, tourbillonnaient dans un rayon de soleil, tandis qu'un piano, touché par une main savante, leur envoyait à travers une fenêtre ouverte les mesures d'une valse impétueuse. J'ai eu du reste à peine le temps d'entrevoir les visages animés des danseuses, les cheveux dénoués et les larges chapeaux flottant sur les épaules. Ma brusque apparition a été saluée par un cri général, suivi aussitôt d'un silence profond. Les danses avaient cessé, et toute la bande, rangée en bataille, attendait gravement le passage de l'étranger. L'étranger, cependant, s'était arrêté, non sans laisser voir un peu d'embarras. Quoique ma pensée n'appartienne guère depuis quelque temps aux prétentions mondaines, j'avoue que j'aurais en ce moment fait bon marché de mon sac de nuit. Il a fallu en prendre mon parti. Comme je m'avançais, mon chapeau à la main, vers le double escalier qui donne accès dans le vestibule du château, le piano s'est interrompu tout à coup. J'ai vu se présenter d'abord, à la fenêtre ouverte, un énorme chien de l'espèce des Terre-Neuve, qui a posé sur la barre d'appui son mufle léonin entre ses deux pattes velues. Puis, l'instant d'après, apparut une jeune fille d'une taille élevée, dont le visage un peu brun et la physionomie sérieuse étaient encadrés dans une masse épaisse de cheveux noirs et lustrés. Ses yeux, qui m'ont semblé d'une dimension extraordinaire, ont interrogé avec une curiosité nonchalante la scène qui se passait au dehors. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc ? » a-t-elle dit d'une voix tranquille. Je lui ai adressé une profonde inclination, et maudissant une fois de plus mon sac de nuit, qui amusait visiblement ces demoiselles, je me suis hâté de franchir le perron. Un domestique à cheveux gris, vêtu de noir, que j'ai trouvé dans le vestibule, a pris mon nom. J'ai été introduit quelques minutes plus tard dans un vaste salon tendu de soie jaune, où j'ai reconnu d'abord la jeune personne que je venais de voir à la fenêtre et qui était définitivement d'une extrême beauté. Près de la cheminée où flamboyait une véritable fournaise, une dame d'un âge moyen et dont les traits accusaient fortement le type créole, se tenait ensevelie dans un grand fauteuil compliqué d'édredons, de coussins et de coussinets de toutes proportions. Un trépied de forme antique que surmontait d'un brasero allumé, était placée à sa portée, et elle en approchait par intervalles, ses mains grêles et pâles. À côté de Madame Larocque était assise une dame qui tricotait. Ah, Sabine morose et disgracieuse, je n'ai pu méconnaître la cousine au deuxième degré, veuve de l'agent de change décédé en Belgique. Le premier regard qu'a jeté sur moi Mademoiselle Larocque m'a paru empreint d'une surprise touchant à la stupeur. Elle m'a fait répéter mon nom. « Pardon, monsieur... »« Odio, madame. »« Ah, Maxime Odio, le gérant, le régisseur, que monsieur Loubépin... »« Oui, madame. »« Vous êtes bien sûr ?» Je n'ai pu m'empêcher de sourire. « Eh oui, madame, parfaitement. » Elle a jeté un coup d'œil rapide sur la veuve de l'agent de change, puis sur la jeune fille au front sévère, comme pour leur dire « Concevez-vous ça ?» Après quoi, elle s'est agitée légèrement dans ses coussines et a repris « Enfin, veuillez vous asseoir, monsieur Odio. Je vous remercie beaucoup, monsieur, de vouloir bien nous consacrer vos talents. Oh, nous avons grand besoin de votre aide, je vous assure. » Car enfin nous avons, on ne peut le nier, le malheur d'être fort riche. S'apercevant qu'à ces mots, la cousine au deuxième degré levait les épaules, « Oui, ma chère Madame Aubry, » a poursuivi Madame Larocque, « j'y tiens. En me faisant riche, le bon Dieu a voulu m'éprouver. J'étais né positivement pour la pauvreté, pour les privations, pour le dévouement et le sacrifice, mais j'ai toujours été contrarié. Par exemple, j'aurais aimé avoir un mari infirme, eh bien, M. Larocque était un homme d'une admirable santé. Voilà comment ma destinée a été sera marquée d'un bout à l'autre. Laissez donc, a dit sèchement Madame Aubry. La pauvreté vous irait bien à vous, qui ne savez vous refuser aucune douceur, aucun raffinement. « Oh, permettez, chère madame, a repris Madame Larocque, je n'ai aucun goût pour les dévouements inutiles. Quand je me condamnerai aux privations les plus dures, à qui ou à quoi cela profiterait-il? Quand je gèlerai du matin au soir, en seriez-vous plus heureuse ? Madame Aubry a fait entendre d'un geste expressif qu'elle n'en serait pas plus heureuse, mais qu'elle considérait le langage de Madame Larocque comme prodigieusement affecté et ridicule. « Enfin, a continué celle-ci, heure ou malheur, peu importe. Donc, nous sommes donc très riches, monsieur Odio, et si peu de cas que je fasse moi-même de cette fortune, mon devoir est de la conserver pour ma fille, quoique la pauvre enfant ne s'en soucie pas plus que moi, n'est-ce pas, Marguerite ? » À cette question, un faible sourire a entr'ouvert les lèvres dédaigneuses de Mademoiselle Marguerite, et l'arc allongé de ses sourcils s'est tendu légèrement, après quoi cette physionomie grave et superbe est rentrée dans le repos. « Monsieur, a repris Madame Larocque, on va vous montrer le logement que nous vous avons destiné sur le désir formel de Monsieur Loubépin. Mais auparavant, permettez qu'on vous conduise chez mon beau-père, qui sera bien aise de vous voir. Voulez-vous sonner, ma chère cousine ? J'espère, Monsieur Odio, que vous nous ferez plaisir de dîner aujourd'hui avec nous. » « Bonjour, monsieur, et à bientôt. » On m'a confié aux soins d'un domestique qui m'a prié d'attendre dans une pièce contiguë à celle d'où je sortais, qui lui prit les ordres de monsieur Larocque. Cet homme avait laissé la porte du salon entrouverte, et il m'a été impossible de ne pas entendre ces paroles prononcées par Madame Larocque sur le ton de bonhomie un peu ironique qui lui est habituel. « Oh ça, comprend-on l'aubépin, qui m'annonce un garçon d'un certain âge, très simple, très mûr, et qui m'envoie un monsieur comme ça. » Mademoiselle Marguerite a murmuré quelques mots qui m'ont échappé à mon vif regret, je l'avoue, et auxquels sa mère a répondu aussitôt. « Oh, mais je ne dis pas le contraire, ma fille, mais cela n'en est pas moins parfaitement ridicule de la part de M. Laubépin. Comment veux-tu qu'un monsieur comme ça s'en aille trotter en sabots dans les terres labourées ? Je parie que jamais il n'a mis de sabots, cet homme-là. Il ne sait pas même ce que c'est que des sabots. Bien, c'est peut-être un tort que j'ai, ma fille, mais je ne peux pas me figurer un bon intendant sans sabots. Dis-moi, Marguerite, j'y pense, si tu l'accompagnais chez ton grand-père. » Mademoiselle Marguerite était entrée presque aussitôt dans la pièce où je me trouvais. En m'apercevant, elle apparut peu satisfaite. « Pardon, mademoiselle, mais ce domestique m'a dit de l'attendre ici. Veuillez me suivre, monsieur. » Je l'ai suivie. Elle m'a fait monter un escalier, traverser plusieurs corridors et m'a introduit enfin dans une espèce de galerie où elle m'a laissé. Je me suis mis à examiner quelques tableaux suspendus au mur. Ces peintures étaient pour la plupart des marines fort médiocres, consacrées à la gloire de l'ancien corsaire de l'Empire. Il y avait plusieurs combats de mer un peu enfumés, dans lesquels il était évident toutefois que le petit Brick l'Aimable, capitaine Larocque, le 26 canons, causait à John Bull les plus sensibles désagréments. Puis venaient quelques portraits en pied du capitaine Larocque, qui naturellement ont attiré mon attention spéciale. Ils représentaient tous, sauf de légères variantes, un homme d'une taille gigantesque, portant une sorte d'uniforme républicain à grands parements, chevelu comme Kléber, et poussant devant lui un regard énergique, ardent et sombre, au total une espèce d'homme qui n'avait rien de plaisant. Comme j'étudiais curieusement cette grande figure qui réalisait à merveille l'idée qu'on se fait en général d'un corsaire et même d'un pirate, Mademoiselle Marguerite m'a prié d'entrer. Je me suis trouvé alors en face d'un vieillard, maigre et décrépit, dont les yeux conservaient à peine l'étincelle vitale, et qui, pour me faire accueil, a touché d'une main tremblante le bonnet de soie noire qui couvrait son crâne luisant comme l'ivoire. « Grand-père, » a dit Mademoiselle Marguerite en élevant la voix, « c'est Monsieur Odiot !» Le pauvre vieux corsaire s'est un peu soulevé sur son fauteuil en me regardant avec une expression terne et indécise. Je me suis assis sur un signe de Mademoiselle Marguerite qui a répété « Monsieur Odiot, le nouvel intendant, mon père !» « Ah, bonjour, monsieur !» a murmuré le vieillard. Une pause du plus pénible silence a suivi. Le capitaine Larocque, le corps courbé en deux et la tête pendante, continuait à fixer sur moi son regard effaré. Enfin, paraissant tout à coup rencontrer un sujet d'entretien d'un intérêt capital, il m'a dit d'une voix sourde et profonde, Monsieur de Beauchesne est mort. À cette communication inattendue, je n'ai pu trouver aucune réponse. J'ignorais absolument qui pouvait être ce monsieur de Beauchesne. Et mademoiselle Marguerite ne se donnant pas la peine de me l'apprendre, je me suis borné à témoigner par une faible exclamation de condoléances de la part que je prenais à ce malheureux événement. Ce n'était pas assez, apparemment, au gré du vieux capitaine, car il a repris, le moment d'après, du même ton lugubre, Monsieur de Beauchesne est mort. Mon embarras a redoublé en face de cette insistance. Je voyais le pied de mademoiselle Marguerite battre le parquet avec impatience. Le désespoir m'a pris et, saisissant au hasard la première phrase qui m'est venue à la pensée, Ah, oui, et de quoi est-il mort? Ai-je dit. Cette question ne m'était pas échappée, qu'un regard courroucé de mademoiselle Marguerite m'avertissait que j'étais suspect de je ne sais quelle irrévérence railleuse. Bien que je ne me sentisse réellement coupable que d'une sotte gaucherie, je me suis empressé de donner à l'entretien un tour plus heureux. J'ai parlé des tableaux de la galerie, des grandes émotions qu'ils devaient rappeler au capitaine, de l'intérêt respectueux que j'éprouvais à contempler le héros de ces glorieuses pages. Je suis même entré dans le détail et j'ai cité avec une certaine chaleur deux ou trois combats où le brick, l'aimable, m'avait paru véritablement accomplir des miracles. Pendant que je faisais preuve de cette courtoisie de bon goût, mademoiselle Marguerite, à mon extrême surprise, continuait de me regarder avec mécontentement et un dépit manifeste. Son grand-père, cependant, me prêtait une oreille attentive. Je voyais sa tête se relever peu à peu. Un sourire étrange éclairait son visage décharné et semblait en effacer les rides. Tout à coup, saisissant des deux mains les bras de son fauteuil, il s'est redressé de toute sa taille. Une flamme guerrière a jailli de ses profondes orbites et il s'est écrié d'une voix sonore qui m'a fait tressaillir. La barre au vent, tout au vent, feu d'abord! Accoste, accoste, jetez les grappins et vivement nous le tenons! Feu là-haut, un bon coup de balai, nettoyez son pont! À moi maintenant, ensemble, suce à l'anglais, aux Saxons maudits! Hurrah! Et en poussant ce dernier cri qui a râlé dans sa gorge, le vieillard, vainement soutenu par les mains pieuses de sa petite fille, est retombé comme écrasé dans son fauteuil. Mademoiselle Laroque m'a fait un signe impérieux et je suis sorti. J'ai retrouvé mon chemin comme j'ai pu à travers le dédale des corridors et des escaliers, me félicitant vivement de l'esprit d'à-propos que j'avais déployé dans mon entrevue avec le vieux capitaine de l'aimable. Le domestique à cheveux gris qui m'avait reçu à mon arrivée et qui se nomme Alain m'attendait dans le vestibule pour me dire de la part de madame Laroque que je n'avais plus le temps de visiter mon logement avant le dîner, que j'étais bien comme j'étais. Au moment même où j'entrais dans le salon, une société d'une vingtaine de personnes en sortait avec les cérémonies d'usage pour se rendre dans la salle à manger. C'était la première fois depuis le changement de ma condition que je me trouvais mêlé à une réunion mondaine. habitué naguère aux petites distinctions que l'étiquette des salons accorde en général à la naissance et à la fortune, je n'ai pas reçu sans amertume les premiers témoignages de la négligence et du dédain auxquels me condamne inévitablement ma situation actuelle. Réprimant de mon mieux les révoltes de la fausse gloire, j'ai offert mon bras à une jeune fille de petite taille, mais bien faite et gracieuse, qui restait seule en arrière de tous les convives, et qui était, comme je l'ai supposé, Mademoiselle Éloin, l'institutrice. Ma place était marquée à côté de la sienne. Pendant qu'on s'asseyait, Mademoiselle Marguerite est apparue comme Antigone, guidant la marche lente et traînante de son aïeul. Elle est venue s'asseoir à ma droite, avec cet air de tranquille majesté qui lui est propre, et le puissant Terre-Neuve, qui paraît être le gardien attitré de cette princesse, n'a pas manqué de se poster en sentinelle derrière sa chaise. J'ai cru devoir exprimer sans retard à ma voisine le regret que j'éprouvais d'avoir maladroitement provoqué des souvenirs qui semblaient agiter d'une manière fâcheuse l'esprit de son grand-père. « Oh, mais c'est à moi de m'excuser, monsieur, » a-t-elle répondu. « J'aurais dû vous prévenir qu'il ne faut jamais parler des Anglais devant mon père. Connaissiez-vous la Bretagne, monsieur ?» J'ai dit que je ne la connaissais pas avant ce jour, mais que j'étais parfaitement heureux de la connaître. Et pour prouver qu'en outre j'en étais digne, j'ai parlé sur le mode lyrique des beautés pittoresques qui m'avaient frappé pendant la route. À l'instant où je pensais que cet adroit de flatterie me conciliait au plus haut degré la bienveillance de la jeune Bretonne, j'ai vu avec étonnement les symptômes de l'impatience et de l'ennui se peindre sur son front. J'étais décidément malheureux avec cette jeune fille. « Allons, je vois, monsieur, » a-t-elle dit avec une singulière expression d'ironie, « que vous aimez ce qui est beau, ce qui parle à l'imagination et à l'âme, la nature, la verdure, les bruyères, les pierres et les beaux-arts. Vous vous entendrez à merveille avec Mademoiselle Éloin, qui adore également toutes ces choses, lesquelles, pour mon compte, je n'aime guère. Mais au nom du ciel, qu'est-ce donc que vous aimez, mademoiselle ? À cette question que je lui adressais sur le ton d'un aimable enjouement, Mademoiselle Marguerite s'est brusquement tournée vers moi, m'a lancé un regard hautain et a répondu sèchement « J'aime mon chien, ici Mervyn !» Puis elle a plongé affectueusement sa main dans la profonde fourrure du Terre-Neuve, qui, maté sur ses pieds de derrière, allongeait déjà sa tête formidable entre mon assiette et celle de Mademoiselle Marguerite. Je n'ai pu m'empêcher d'observer avec un intérêt nouveau la physionomie de cette bizarre personne et d'y chercher les signes extérieurs de la sécheresse d'âme dont elle paraît faire profession. Mademoiselle Laroque, qui m'avait paru d'abord fort grande, ne doit cette apparence qu'au caractère ample et parfaitement harmonieux de sa beauté. Elle est en réalité d'une taille ordinaire. Son visage, d'un ovale un peu arrondi, et son cou d'une pose exquise et fière, sont légèrement recouverts d'une teinte d'or sombre. Sa chevelure, qui marque sur son front un relief épais, jette à chaque mouvement de tête des reflets onduleux et bleuâtres. Les narines, délicates et minces, semblent copiées sur le modèle divin d'une madone romaine sculptée dans une nacre vivante. Au-dessous des yeux, larges, profonds et pensifs, le hâle doré des joues se nuance d'une sorte d'auréole plus brune qui semble une trace projetée par l'ombre des cils ou comme brûlée par le rayonnement ardent du regard. Je puis difficilement rendre la douceur souveraine du sourire qui, par intervalle, vient animer ce beau visage et tempérer par je ne sais quelle contraction gracieuse l'éclat de ses grands yeux. Certes, la déesse même de la poésie, du rêve et des mondes enchantés, pourrait se présenter hardiment aux hommages des mortels sous la forme de cet enfant qui n'aime que son chien. La nature, dans ses productions les plus choisies, nous prépare souvent ces cruelles mystifications. Au surplus, il m'importe assez peu. Je sens assez que je suis destiné à jouer dans l'imagination de Mademoiselle Marguerite le rôle qui pourrait jouer à un nègre, objet, comme on sait, d'une mince séduction pour les créoles. De mon côté, je me flatte d'être aussi fier que Mademoiselle Marguerite. Le plus impossible des amours pour moi serait celui qui m'exposerait aux soupçons d'intrigue et d'industrie. Je ne pense pas, au reste, avoir à m'armer d'une grande force morale contre un danger qui ne me paraît pas vraisemblable, car la beauté de Mademoiselle Laroque est de celle qui appelle la pure contemplation de l'artiste plutôt qu'un sentiment d'une nature plus humaine et plus tendre. Cependant, sur le nom de Mervin, que Mademoiselle Marguerite avait donné à son garde du corps, ma voisine de gauche, Mademoiselle Éloin, s'était lancée à pleine voile dans le cycle d'Arthur, et elle a bien voulu m'apprendre que Mervin était le nom authentique de l'enchanteur célèbre que le vulgaire appelle Merlin. Des chevaliers de la table ronde allaient remonter jusqu'au temps de César, et j'ai vu défiler devant moi, dans une procession un peu prolixe, toute la hiérarchie des druides et des bardes et des ovates, après quoi nous sommes tombés fatalement de menhir en dolmen et de galgal en cromlech. Pendant que je m'égarais dans les forêts celtiques sur les pas de Mademoiselle Éloin, à laquelle il me manque un peu d'embonpoint pour être une druidesse fort passable, la veuve de l'agent de change, placée près de nous, faisait retentir les échos d'une plainte continue et monotone comme celle d'un aveugle. On avait oublié de lui donner un chauffe-pied. On lui servait du potage froid. On lui servait des eaux décharnées. Voilà comme on la traitait. Au reste, elle y était habituée. Il est triste d'être pauvre, bien triste. Oh, elle voudrait être morte. Oui, docteur. Elle s'adressait à son voisin, qui semblait écouter ses doléances avec une affectation d'intérêt tant soit peu ironique. Oui, docteur, ce n'est pas une plaisanterie. Je voudrais être morte. Ce serait un grand débarras pour tout le monde, d'ailleurs. Songez donc, docteur. Quand on a été dans ma position, quand on a mangé dans de l'argenterie à ses armes, être réduite à la charité et se voir le jouet des domestiques, on ne sait pas tout ce que je souffre dans cette maison. On ne le saura jamais. Quand on a de la fierté, on souffre sans se plaindre. Aussi je me tais, docteur, mais je n'en pense pas moins. C'est cela, ma chère dame, a dit le docteur, qui se nomme, je crois, Desmarets. N'en parlons plus, allez, buvez frais, cela vous calmera. Rien, rien ne me calmera, docteur, que la mort. Eh bien, madame, quand vous voudrez, a répliqué le docteur résolument. Dans une région plus centrale, l'attention des convives était accaparée par la verve insouciante, caustique et fanfaronne d'un personnage que j'ai entendu nommer Monsieur de Bévalan et qui paraît jouir ici les droits d'une intimité particulière. C'est un homme d'une grande taille, d'une jeunesse déjà mûre, et dont la tête rappelle assez fidèlement le type du roi François Ier. On l'écoute comme un oracle, et Mademoiselle Larocque elle-même lui accorde autant d'intérêt et d'admiration qu'elle paraît capable d'en concevoir pour quelque chose en ce monde. Pour moi, comme la plupart des saillies que j'entendais applaudir se rapportaient à des anecdotes locales et à des circonstances de clocher, je n'ai pu apprécier qu'incomplètement jusqu'ici le mérite de ce lion armoricain. J'ai eu toutefois à me louer de sa courtoisie. Il m'a offert un cigare après le dîner et m'a emmené dans le boudoir où l'on fume. Il en faisait en même temps les honneurs à trois ou quatre jeunes gens à peine sortis de l'adolescence, qui le regardent évidemment comme un modèle de belle façon et d'exquise scélératesse. Eh bien, Bévalan, a dit un de ces jeunes séides, vous ne renoncez donc pas à la prêtresse du soleil? Jamais, a répondu Monsieur de Bévalan. J'attendrai, oh, 10 mois, 10 ans s'il le faut, mais je l'aurai ou personne ne l'aura. Vous n'êtes pas malheureux, vieux drôle, l'institutrice vous aidera à prendre patience. Dois-je vous couper la langue ou les oreilles, jeune Arthur? A repris à demi-voix Monsieur de Bévalan en s'avançant vers son interlocuteur et en lui faisant d'un signe rapide remarquer ma présence. On a mis alors sur le tapis, dans un pêle-mêle charmant, tous les chevaux, tous les chiens et toutes les dames du canton. Il serait à désirer, par parenthèse, que les femmes pussent assister secrètement, une fois en leur vie, à une de ces conversations qui se tiennent entre hommes dans la première effusion qui suit un repas copieux. Ah! Elles y trouveraient la mesure exacte de la délicatesse de nos mœurs et de la confiance qu'elle doit leur inspirer. Au surplus, je ne me pique nullement de pruderie, mais l'entretien dont j'étais le témoin avait le tort grave, à mon avis, de dépasser les limites de la plaisanterie la plus libre. Il touchait à tout en passant, outrageait tout gaiement et prenait un caractère très gratuit d'universelle profanation. Or, mon éducation, trop incomplète sans doute, m'a laissé dans le cœur un fond de respect qui me paraît devoir être réservé au milieu des plus vives expansions de la bonne humeur. Cependant, nous avons aujourd'hui en France notre jeune Amérique qui n'est point contente si elle le blasphème un peu après boire. Nous avons d'aimables petits bandits, espoirs de l'avenir, qui n'ont eu ni père ni mère, qui n'ont point de patrie, qui n'ont point de Dieu, mais qui paraissent être le produit brut de quelque machine sans entrailles et sans âme, qui les a déposés fortuitement sur ce globe pour en être le médiocre ornement. Bref, monsieur de Bévalan, qui ne craint point de s'instituer le professeur cynique de ces roués sans barbe, ne m'a pas plu, et je ne pense pas lui avoir plu davantage. J'ai prétexté un peu de fatigue et j'ai pris congé. Sur ma requête, le vieil Alain s'est armé d'une lanterne et m'a guidé à travers le parc vers le logis qui m'est destiné. Après quelques minutes de marche, nous avons traversé un pont de bois jeté sur une rivière et nous nous sommes trouvés devant une porte massive et ogivale qui est surmontée d'une espèce de beffroi et flanquée de deux tourelles. C'est l'entrée de l'ancien château. Des chênes et des sapins séculaires forment autour de ce débris féodal une enceinte mystérieuse qui lui donne un air de profonde retraite. C'est dans cette ruine que je dois habiter. Mon appartement, composé de trois chambres très proprement tendues de Perse, se prolonge au-dessus de la porte d'une tourelle à l'autre. Ce séjour mélancolique ne laisse pas de me plaire. Il convient à ma fortune. À peine délivré du vieil Alain qui est d'humeur un peu conteuse, je me suis mis à écrire le récit de cette importante journée, m'interrompant par intervalles pour écouter le murmure assez doux de la petite rivière qui coule sous mes fenêtres et le cri de la chouette légendaire qui célèbre dans les bois voisins ses tristes amours.